Matthieu chapitre 2, versets 12 à 15. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Prions encore ensemble. Père, je voudrais te prier que tu nous aides, que tu m'aides à parler avec clarté, avec simplicité, avec humilité et avec zèle, pour que ce que tu veux nous dire ce matin soit entendu par chacun. Nous te bénissons, notre Dieu, de ce miracle par lequel tu nous enseignes au travers de cette parole écrite il y a des siècles et pourtant si actuelle. Nous voyons là ta sagesse, mais nous voulons te demander de nous ouvrir les yeux davantage afin que nous voyions cette même sagesse avec plus de netteté. Accorde l'instruction dont nous avons besoin pour nos vies, pour vivre devant toi d'une manière qui te soit agréable, à la fois individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avons, pour ceux qui étaient là, parlé des périodes, si vous vous en souvenez, de grande activité des anges. Ces périodes où les anges se rendent de plus en plus visibles et nous avions souligné que ça correspondait en général à l'une ou l'autre de ces trois actions divines. C'était parfois des époques de grands jugements de Dieu ou bien des époques de grandes délivrances de Dieu ou encore des temps où il y avait une étape décisive dans la constitution et l'organisation du peuple de Dieu. Et l'époque de la venue du Christ, et notamment la naissance de Jésus, est une époque de grande activité visible des anges. Nous ne refaisons pas la liste, mais si vous lisez Matthieu et Luc, nous voyons que bien des gens autour de Jésus, que ce soit les membres de sa famille ou plus loin, les bergers, les mages et d'autres, sont vraiment en interaction avec l'activité visible des anges. Ce qui annonce, nous l'avions dit, non pas seulement une grande délivrance, non pas seulement un temps de grand jugement, non pas non plus une étape nouvelle pour le peuple de Dieu, mais bien les trois ensemble. La venue du Christ, on pourrait dire, fait que le projet de Dieu fait un bond gigantesque vers l'avant. Et dans ces quelques versets que nous avons lus, l'apôtre Matthieu nous raconte la fuite en Égypte de Joseph avec l'enfant Jésus à cause des projets meurtriers du roi Hérode. Et ce récit, j'en suis convaincu, contient de grandes leçons concernant les relations notamment entre Dieu et Israël. Et peut-être nous, en tant que chrétiens, pour la plupart d'entre nous, et peut-être même la totalité, je ne sais pas si quelqu'un ici est d'origine juive, je ne pense pas, il y a des chrétiens aujourd'hui dans le monde qui sont d'origine juive, mais nous pouvons facilement oublier que l'histoire de la rédemption n'a pas commencé avec nous, mais que Dieu, autrefois, avait un peuple, le peuple d'Israël. Et que ces écrits qui nous parlent de cette relation entre Dieu et Israël nous sont tout à fait utiles. Bien que, dans un premier temps, nous devons plutôt prendre la place, comme je le disais tout à l'heure, de spectateur, afin d'observer attentivement ce que Dieu fait et du coup ce qu'il nous enseigne au travers de ce qu'il fait. On pense généralement, une dernière remarque en introduction, on pense généralement, et je crois pour de bonnes raisons, que l'évangile de Matthieu a été écrit d'abord pour des lecteurs d'origine juive. D'où le fait que Matthieu, contrairement aux autres évangiles, va citer presque à chaque chapitre des prophètes qui ont dit telle et telle chose qui s'est annoncée dans la vie de Jésus. Matthieu s'intéresse à un certain nombre de sujets dans la vie de Jésus qui seront des passerelles, des interpellations pour des juifs qui se demandent « Mais est-ce notre Messie que nous attendions ?» Et tout lecteur, je crois, de l'évangile de Matthieu et tout lecteur aussi familier de l'Ancien Testament ne peut pas, je crois, s'empêcher de lire ces quelques versets que nous avons lus sans faire le lien avec des événements du passé, et notamment le lien avec l'Exode. Il y a ici, je crois, une description d'un Exode, mais plus que ça, la description d'un nouvel Exode. Il y a la mention aussi là d'un fils, comme autrefois lorsqu'Israël sortait d'Égypte et que Dieu avait dit à Moïse « Va dire au Pharaon, laisse aller mon fils ». Mais il y a ici la description d'un autre fils bien plus grand que ce premier qui sortait d'Égypte. Et ce matin, nous allons voir que Jésus réalise un nouvel Exode. La prochaine fois, nous verrons que Jésus est, on pourrait dire, le nouveau fils. Jésus réalise un nouvel Exode. Commençons par nous intéresser à cet Exode ancien. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, l'Exode, vous le savez, si vous lisez la Bible, c'est le nom d'un livre de l'Ancien Testament, le deuxième livre, qui nous raconte comment le peuple qui s'était autrefois réfugié en Égypte pour fuir la famine, à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau pharaon qui n'avait pas connu les ancêtres d'Israël, le peuple a été soumis à un rude et dur esclavage pendant 400 ans. Et l'Exode nous parle de la manière majestueuse et puissante par laquelle Dieu a délivré d'Égypte son peuple, par l'intermédiaire notamment du prophète Moïse. Deuxième remarque, Exode, qui a le sens de sortir ou aller hors d'eux, cheminer hors d'eux, c'est un terme grec qui a été donc donné pour ce deuxième livre de la Bible. Ça veut simplement dire sortir d'eux ou aller hors d'eux. Et c'est logique puisque le livre de l'Exode fait un zoom, s'intéresse particulièrement à cette sortie de l'Égypte. Troisième remarque, cette délivrance que Dieu a opérée n'est pas une surprise. Elle avait été annoncée d'avance à Abraham dans Genèse chapitre 15, nous ne le lirons pas ce matin, mais Dieu avait déjà dit plusieurs siècles avant à Abraham, l'ancêtre d'Israël, « Voici tes descendants seront en Égypte esclaves pendant 400 ans, puis je les en ferai remonter et je les ferai monter dans ce pays que je t'ai promis. » Et cette grande délivrance a été l'occasion pour Dieu, une occasion supplémentaire, de manifester certains traits de son caractère. Je vous en mentionne quatre. Qu'est-ce que l'Exode nous montre du caractère de Dieu, de l'Éternel ? Premièrement, l'Exode nous apprend que l'Éternel, Yahvé, est le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas comme les idoles. La preuve, si vous étudiez attentivement les différents fléaux, les différentes plaies d'Égypte, elles visent à démontrer aux Égyptiens que ni leur prétendu Dieu du soleil, ni leur prétendu Dieu du Nil ne sont vraiment Dieu. La preuve, c'est que Yahvé, l'Éternel, le Dieu d'Israël, peut rendre l'eau du Nil impropre à la consommation sans que leur dieu crocodile ne puisse réagir, le dieu du Nil. Pensez à Ra, ou Ré selon les appellations, ce dieu soleil. Comment est-ce que Dieu montrera que ce n'est qu'une idole, une chimère, et que c'est lui le vrai dieu de la création ? Eh bien, il va envoyer des ténèbres épaisses, si épaisses même, nous dit Moïse, qu'on aurait presque pu les toucher, sans que le dieu de l'Égypte ne puisse contrecarrer cette plaie envoyée par l'Éternel. Donc voilà déjà le premier enseignement de l'Exode ancien. Dieu est le vrai Dieu qui démontre sa puissance efficace. Deuxième chose que l'on apprend sur le caractère de Dieu, c'est que Dieu est fidèle. Dieu, l'Éternel, est fiable. Il est ce Dieu sur qui, si vous vous appuyez sur lui, vous ne risquez pas de chuter. Il avait promis d'avance la délivrance, et voilà qu'il l'accomplit au temps de Moïse. Troisième chose que l'on apprend sur le caractère de Dieu, Dieu est compatissant. Que dit-il à Moïse lorsqu'il prévient Moïse de ses projets de libérer le peuple ? Dans Exode chapitre 3 au verset 7, nous lisons ceci. Je le lis rapidement, Exode 3 verset 7. Voilà que Dieu fait appel à Moïse et se révèle à lui. Et il lui annonce ceci. « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Car, écoutez bien, je connais ses douleurs. L'Éternel qui délivre est le Dieu des compassions, le Dieu qui compatit, le Dieu qui comprend la souffrance et la douleur de son peuple. » Et enfin, dernier caractère que je mentionne, qui nous est révélé, qui est, je pourrais dire, projeté comme une publicité géante lorsque Dieu délivre de manière grandiose son peuple, c'est que Dieu, et on pourrait dire le Dieu prodigue, un vieux terme qui veut dire qu'il est d'une bonté généreuse, abondante. Comment le voit-on ? Eh bien déjà, il ne lésine pas sur les soins qu'il apporte à Israël, à la fois pour le libérer, mais aussi dans le désert. Mais nous voyons aussi cette abondance de la bonté de Dieu au travers du fait que, tenez-vous bien, Dieu libère les Israélites d'Égypte, mais Dieu permet aussi que viennent avec les Juifs des Égyptiens, qui, voyant la grandeur de ce Dieu vivant et vrai, se disent « Nous voulons suivre son peuple, afin de nous aussi être son peuple. » Et Dieu les accueille. La générosité de Dieu. Quatrième et dernière remarque sur cet Exode ancien, il est donc logique que tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament, l'Exode devient une sorte de thème, une sorte de symbole. Symbole de quoi ? De la miséricorde du Dieu capable de délivrer et de sauver tous ceux qui se confient en lui. Si on prend un peu une image contemporaine pour nous, lorsque les Juifs entendent parler de l'Exode, c'est un peu comme nous, Français, lorsqu'on entend le mot « débarquement ». Ça nous rappelle ici une grande délivrance, un moment crucial dans l'histoire du pays, un moment heureux. Et pareillement, l'Exode était régulièrement commémoré comme ce jour heureux où Dieu a délivré le peuple. Deux moments notamment, le sabbat. Chaque sabbat, dans Deutéronome chapitre 5, nous lisons que l'une des raisons pour lesquelles non seulement le peuple doit se reposer, mais y compris les serviteurs et les servantes et les animaux, Dieu dit c'est parce que vous devez vous souvenir ce jour-là que vous étiez autrefois esclaves en Égypte, sous un dur et rude esclavage. Et aussi à chaque fête de Pessah, qu'on appelle en français Pâques, c'est le souvenir de cette nuit heureuse, bien heureuse, où Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Voilà donc ce qu'on peut dire de l'Exode ancien. Et quand on en vient à Christ, ça paraît logique, n'est-ce pas, que si l'Exode est l'emblème de la délivrance de Dieu, que lorsque Dieu envoie son Fils pour accomplir la plus grande des délivrances, nous sauver de nos péchés, que le thème de l'Exode ne soit pas très loin. Voilà pourquoi donc, comme l'affirme le verset 15, ces choses sont arrivées. C'était afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Jésus est venu accomplir une plus grande délivrance encore que celle de l'Exode, puisque Jésus nous dit « Chacun est esclave de ce qui a dominé sur lui. » Jean chapitre 8. Et il parle ici en particulier du péché. « Celui qui commet le péché est esclave du péché. » Mais, ajoute-t-il, « si le Fils vous libère, alors, véritablement, vous serez libre. » Parlons maintenant du nouvel Exode. Quels sont, et nous allons faire deux choses ici, pour ce nouvel Exode, nous allons dans un premier temps regarder les rapprochements, les points communs entre cet Exode du Christ et l'ancien Exode, et en tirer quelques leçons. Et dans un deuxième temps, nous allons essayer de mettre en lumière quelles sont les différences entre ces deux Exodes et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer. Souvenez-vous de l'image que j'avais prise la dernière fois, de l'enfant qui apprend à lire puis à écrire. Il apprend à lire d'abord avec un alphabet aisé, n'est-ce pas, où on peut reconnaître les formes assez aisément. Puis, lorsqu'il apprend à écrire, on le met en face d'une graphie qui est peut-être une graphie en attaché, un peu plus raffinée, un peu plus difficile peut-être à reconnaître. C'est la même chose, mais il y a une différence parce qu'on est dans une étape autre. Il apprend maintenant à écrire. Et de la même manière, nous allons voir l'Exode du Christ ressemble à l'ancien, mais c'est une nouvelle étape. Et c'est pour ça qu'il y a des différences. Est-ce que ça va pour le programme de la suite? Question. Est-ce que vous avez trop chaud?
Non.
Ok. Les rapprochements entre les deux exodes, il me semble, sont assez évidents quand on regarde le texte. J'en cite quelques-uns. Jésus, d'abord, est menacé par un tyran, Hérode, comme l'était Israël autrefois par le Pharaon. Deuxième rapprochement, le roi Hérode va commander l'assassinat des garçons de Bethléem et de son territoire, tout comme le Pharaon avait ordonné dans Exode chapitre 1 aux sages-femmes des Hébreux de faire mourir tous les garçons des Hébreux qui naissaient. Jésus est conduit hors d'Égypte par un homme pieux que Dieu a choisi, Joseph. Et pareillement, Israël a été conduit hors d'Égypte par un homme pieux que Dieu avait envoyé, Moïse. Enfin, lorsque Jésus doit quitter le territoire, en tout cas du tyran, il le quitte de nuit et précipitamment, nous dit le texte. Lisons ensemble à nouveau le verset 14. « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et que lui dit l'ange, même si on remonte au verset 13, il lui dit « Fuis !» Et de la même façon, Israël, autrefois, avait dû fuir rapidement et de nuit. Alors la question qu'on se pose très concrètement, et alors ? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer ? Qu'est-ce que ça change ? Quel est l'intérêt de relever ces points communs ? Eh bien, il me semble qu'une partie du message est parfaitement claire. Premièrement, c'est un rappel que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours le Dieu des délivrances. Il est encore à l'œuvre, et cela nous parle de ce qu'on appelle l'immuabilité ou l'immutabilité de Dieu, le fait que les attributs de Dieu sont constants, stables. Nous ne devrions pas, du coup, être surpris que Dieu, de nouveau, délivre. Le même soleil qui, depuis des siècles, ne change pas dans sa manière d'éclairer notre planète, ainsi aussi est le Dieu qui, par la lumière de la gloire de son salut, délivre nos âmes. Il est constant, il est stable, aussi stable que l'astre des cieux. Deuxième chose, deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est que le Christ s'associe à l'histoire d'Israël et en devient le représentant. il peut compatir. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux va insister là-dessus. Il peut compatir, notamment parce qu'il a vécu des détresses, dès son enfance, des détresses semblables à celles que la nation d'Israël a pu vivre dans son histoire. Il est, on pourrait dire, l'Israélite par excellence, lui qui, à lui tout seul, a vécu un exode. Il est le représentant d'Israël aussi, parce que, comme nous le verrons la prochaine fois, lors du premier exode, qui est appelé fils ? C'est Israël en tant que peuple. Et lors de ce second exode, qui est appelé fils ? C'est Jésus. Et en ce sens, il devient le représentant du peuple d'Israël. Ainsi donc, il ne va pas seulement compatir aux épreuves d'Israël en traversant des difficultés semblables, mais il va à lui seul porter et assumer le sort de son peuple. Et là, vous voyez peut-être déjà que se profile à l'horizon la croix. Car que nous dit Ésaïe 53 ? À la croix, Jésus-Christ est le représentant parfait de son peuple. Lui, le juste, souffre pour les injustes. Lui, l'innocent, souffre pour les coupables. Il porte des péchés qui ne sont pas les siens, mais il le fait par amour pour les siens. Et nous voyons ici déjà, on pourrait dire en germe, cette substitution du Christ. Troisième et dernière leçon qu'on pourrait tirer de ces similitudes entre ces deux exodes, c'est que dans un sens plus profond encore, Jésus est lui-même l'exode. Ce n'est pas simplement que Jésus vit et réalise un nouvel exode, mais il est lui-même un exode. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, il est le chemin du salut. Il est le chemin pour échapper à l'esclavage du péché. Matthieu 1, verset 23, il s'appellera Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leur péché. Il est, oui, le chemin qui nous conduit loin de la cité de la destruction, cette cité de destruction dans laquelle le péché nous enferme, et il nous fait entrer dans la cité céleste, le royaume de Dieu. Ce Canaan céleste, ce pays promis, qui fait le délice de toute âme qui a reçu la vie de Dieu. C'est donc en suivant le Christ que la faveur de Dieu nous suit. C'est en suivant le Christ que la faveur de Dieu trouve un chemin jusqu'à nous. Il est lui-même l'exode, le chemin jusqu'à Dieu. Regardez avec moi quelque chose qui illustre ce que je viens de dire. Joseph et Marie, dans le texte, sont là, ils sont présents, on les mentionne, mais ils ne sont pas tellement les personnages principaux du texte. Ils sont autour du Christ, et c'est le Christ le personnage central ici. Et pourtant, parce qu'ils sont attachés au Christ, et parce que de cœur, ils adhèrent au projet de Dieu de faire de Jésus le Seigneur de ce monde, eh bien, ils sont, on pourrait dire, couverts eux aussi par la faveur de Dieu déversée sur Jésus-Christ. Nous pourrions dire, comme la Bible l'enseigne d'ailleurs, que Jésus est la tête et les croyants sont le corps. Et lorsque Dieu fait tomber l'huile qui symbolise la bénédiction, la faveur de Dieu, cette huile coule sur tout le corps. Par notre attachement à la tête qui est Jésus, nous aussi, nous pouvons bénéficier de la faveur de Dieu. Avant de passer aux différences entre les deux exodes, j'aimerais faire deux remarques sur ce chemin, sur cet exode qu'est le Christ. C'est un chemin, premièrement, difficile. Un chemin difficile, pourquoi ? Eh bien parce que suivre le Messie n'est pas un long fleuve tranquille. Si on étudie un petit peu le trajet probable qu'ils ont dû faire, la frontière égyptienne est à au mieux 140-150 kilomètres. Nous sommes à une époque où il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, pas de moto, pas de vélo. Au mieux, on peut voyager à dos de chameau ou d'un âne. Certainement, cette famille n'est pas richissime pour avoir des chevaux. Et nous devons réaliser que c'est une famille avec un enfant en bas âge, 2 ans ou moins. Ils doivent partir de nuit, précipitamment. Et donc ce n'est pas un trajet qui est pleinement planifié, contrôlé, sécurisé. Et donc, pour le dire concrètement, suivre Jésus dans son exode a un coût. Être un disciple de Jésus-Christ n'est pas sans difficulté. Et je crois qu'il y a ici une leçon à la fois pour ceux ici ce matin qui sont disciples de Jésus-Christ, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour vous qui êtes disciples de Jésus, ne soyez donc pas surpris des difficultés, des peines, des épreuves, des renoncements parfois et des déchirements qui sont sur votre chemin du fait que vous suivez le Messie. Ne soyez pas étonnés de cela parce que ça fait partie effectivement du trajet. C'est le trajet du Christ, la souffrance puis la gloire, et il est normal que ceux qui le suivent aient un trajet semblable, la souffrance puis la gloire. Prenez donc courage, marchez d'un pas résolu, marchons d'un pas résolu, car la suite du chemin ressemblera aussi à la fin de Jésus-Christ, résurrection, ascension dans la gloire et vie éternelle. Pour vous qui n'êtes pas encore disciples, il y a aussi une leçon. Vous avez certainement entendu que le message chrétien vous parle de vie éternelle, de paix avec Dieu, de pardon, de résurrection et de bien des délices spirituels, des réalités extraordinaires que Dieu, le Dieu créateur, promet à ceux qui le suivent. Mais nous ne voudrions pas vous laisser penser que devenir chrétien ou chrétienne est synonyme du coup d'avoir la vie en rose. Vous devez entendre et savoir qu'il y a un coût, le coût du disciple. Jésus dit « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître ». Si le maître a souffert, alors le disciple doit s'attendre aussi à souffrir et à renoncer à certaines choses. Alors vous êtes cordialement invités à rejoindre la cohorte des disciples de Jésus-Christ, mais sans naïveté. Sans naïveté. Mais un encouragement toutefois, il est vrai que ce chemin est difficile, et j'en viens à la deuxième et dernière remarque pour cette partie, mais ce chemin est sûr. Et certain. Ce chemin est sûr et certain. Comment pouvons-nous l'affirmer? Eh bien, qui suit le Christ dans son chemin, dans son exode ici? Est-ce que la sécurité du Christ dépend de Joseph et de Marie, de villageois israélites sans grande puissance contre le roi Hérode? D'où vient sa sécurité? D'où vient que cet enfant de 2 ans ou moins, nous pouvons savoir avec certitude que pas un seul cheveu de sa tête ne tombera. Eh bien, cette certitude vient du grand Dieu, du Dieu et Père de Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Ainsi, parce que Dieu est le Tout-Puissant, les puissances du mal ne peuvent pas tenir. William Gurnall, un pasteur du passé, disait ceci: « Un seul tout-puissant, c'est plus que tous les puissants. Un seul tout-puissant, c'est plus que tous les puissants. » Et c'est bien le tout-puissant qui vous accompagne, comme il a accompagné ici le Christ et sa famille, qui nous accompagne dans cet exode. Soyons encourager, ce chemin est sûr et certain. Dieu délivre, et Dieu peut délivrer malgré votre faiblesse et malgré la force de l'ennemi duquel il délivre. Dieu est omnipotent et rien ne résiste à sa volonté. Amen. Nous avons vu que cet exode du Christ est l'annonce donc d'une grande délivrance. Dieu ici est en train de reprendre des thèmes anciens où il montre qu'il est le même, ce Dieu qui libère, ce Dieu fidèle à ses promesses, ce Dieu qui sauve. Plus de 1000 ans après le premier Exode, le Fils de Dieu nous annonce le plus grand des exodes, celui des âmes qui sont arrachées au royaume de Satan et de ce royaume de ténèbres pour être transposées, transférées dans le royaume de lumière de Dieu. Venons-en maintenant aux différences que nous avons entre ces deux exodes, entre les deux récits. Et ces différences sont d'une extrême importance. Et nous aurions, et vous auriez, une vision partielle de ce que Dieu fait au travers de Jésus-Christ si vous ne preniez pas le temps de considérer quelles sont ces différences que nous avons ici. C'est un peu, pour ceux qui lisent les prophéties de l'Ancien Testament, vous savez, souvent, quand on lit Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, il y a des annonces de salut, de délivrance, entremêlées avec des annonces de jugement. Les deux souvent s'accompagnent. Et nous avons, je crois, cela ici dans ce texte, entremêlées des raisons d'espérer, si nous nous confions en Christ, mais aussi des raisons de redouter, si nous négligeons ce grand salut qui nous est parvenu. Voyons ensemble en quoi les deux exodes donc diffèrent et en quoi l'exode du Christ n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais aussi un avertissement. Regardez avec moi, le tyran, qui est-il? Et à la tête de quelle nation se trouve-t-il? À l'époque où Israël sortait d'Égypte, le tyran était à la tête d'une nation étrangère. Mais voici ici que le roi Hérode est à la tête du peuple d'Israël. Il est installé sur le trône au milieu d'Israël. Deuxième différence, le tyran ne s'en prend plus à un peuple dans son ensemble, comme s'il ne se sentait plus différent et étranger par rapport à ce peuple, mais il ne semble presque ne faire qu'un avec ce peuple, mais il s'en prend à une seule personne, le Christ. Et donc, ce n'est pas le peuple dans sa globalité qui va être délivré dans ce nouvel exode, mais un petit reste représenté par Jésus. Autre remarque, Israël devient une terre inhospitalière, comme l'Égypte autrefois. C'est frappant, hein ? Même si dans le texte Matthieu nous dit bien que Jésus va quand même aller en Égypte et sortir d'Égypte, mais quel est le premier territoire qu'il doit fuir ? Le territoire qui autrefois était le pays promis. Le territoire d'où coulait le lait et le miel. Le territoire qui était le symbole du repos. Jésus doit fuir ce qu'aujourd'hui on appelle la Palestine, ce territoire d'Israël qui devient une terre hostile. Autre remarque. Lors du premier exode, Dieu va envoyer des fléaux contre le Pharaon et contre l'Égypte afin de précipiter la sortie de son peuple. Dans le nouvel exode, notez bien, verset 15, « Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. » Autrement dit, cette fois-ci, Dieu ne châtie même plus le tyran en question. Dieu attend simplement la mort d'Hérode. Et enfin, dernière différence que j'aimerais relever, à l'époque du premier exode, le pharaon ne va pas parvenir à mettre à exécution son plan de massacrer les garçons israélites. Vous vous souvenez, Exode chapitre 1, il commande aux sages-femmes, lorsque les fils des femmes des Hébreux naîtront, faites-les périr. Pourquoi ? Parce qu'ils craignaient. Étant donné que le peuple hébreu était devenu très nombreux, il craignait qu'un jour, le peuple se rebelle et renverse la domination égyptienne. Les sages-femmes qui étaient pieuses et qui craignaient Dieu, nous dit le texte, ont trouvé un moyen, par la grâce de Dieu, de ne pas faire périr les enfants, mais au contraire de les sauver. Dieu, au travers des sages-femmes, protégeait et sauvait les garçons d'Israël. Mais voilà que nous ne l'avons pas lu ce matin, mais nous le verrons la prochaine fois. à partir du verset 16, Hérode n'aura aucun frein dans sa pulsion meurtrière. Il fera périr les garçons de Bethléem et de son territoire sans aucune résistance. Dieu n'interviendra pas. Pour ainsi dire, il a enlevé sa main protectrice d'Israël. Nous sommes ici dans une étape différente de la relation entre Dieu et Israël. Sur l'ordre du roi Hérode, les garçons de Bethléem seront mis à mort. Alors, comment comprendre ces différences ? Et quelle est cette nouvelle étape qui annonce visiblement un traitement différent du peuple que par le passé ? Nous arrivons là du coup à la conclusion. Israël est, au temps où Jésus est né, dans une telle décadence spirituelle, dans une si grande et si fréquente violation de l'alliance contractée avec l'Éternel. Souvenez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure dans Deutéronome, hein, la responsabilité d'Israël du fait d'avoir été choisi et sauvé, de vivre du coup selon les commandements de Dieu. Israël est tellement éloigné de ça, des standards pour être le peuple de Dieu, que la nation, l'avez-vous remarqué, elle est comme comparée ici finalement à l'Égypte. L'Égypte, de laquelle Dieu délivrait autrefois son peuple, est devenue quelque part semblable à son peuple. Même pire, Christ va trouver refuge en Égypte, là où Israël devient hostile. Dans un sens, nous ne devrions pas être surpris si nous lisons l'Ancien Testament. Dieu avait annoncé que si Israël persévérait dans sa rébellion, dans ses transgressions, il finirait par traiter Israël comme le peuple d'Égypte. On peut lire ça notamment dans le Deutéronome, où Dieu menace de faire venir les plaies d'Égypte sur Israël, pour ainsi dire. Dieu avait plusieurs fois envoyé ses prophètes pour appeler Israël à revenir, à se détourner des pratiques horribles des autres nations. Lorsque Moïse donne les commandements à Israël, il dit « Vous n'imiterez pas, notamment l'Égypte, inceste, idolâtrie et autres pratiques terribles qui nous sont décrites dans les Écritures saintes. Vous serez bénis, disait Dieu, si vous vous abstenez de vivre comme en Égypte et si vous observez mes lois. Vous serez maudit si vous vous rendez semblable aux Égyptiens, si vous suivez leur divinité. Et la prochaine fois, nous verrons que Israël perd son privilège de peuple de Dieu. Israël n'est plus traité en tant que fils de Dieu. Il y a donc une fin à la grande patience de Dieu. Pensez-y. Il y a une fin à la patience du Dieu éternel. C'est quelque chose qui devrait, je crois, nous faire un peu trembler. Parce que nous parlons ici du Dieu quasiment infiniment patient. Siècle après siècle, il maintient encore ce monde et cette humanité. Il fait lever son soleil et donne sa pluie, même à ceux qui lèvent leur poing contre Dieu, pensant ainsi démontrer, je ne sais pas, quelque courage ou quelque liberté. Et Dieu patiente. Mais ce récit nous montre qu'on ne se moque pas impunément de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. Il vient un temps où nous entendrons, si nous ne faisons pas allégeance au Christ, trop tard. Trop tard. Permettez-moi donc de ne pas rester théorique. Ce message s'adresse à chaque lecteur de l'Évangile et à chaque auditeur de cette prédication. Et du coup, la question nous est posée. La question vous est posée. Es-tu encore dans des liens de péché? Dans des liens qui te dominent parce que tu résistes à l'appel de Dieu de sortir d'Égypte? es-tu encore en Égypte et vis-tu au mépris de la grâce du Dieu de l'Exode, du Dieu des délivrances? Que fais-tu encore en Égypte quand Dieu t'appelle et t'exhorte à en sortir? Que fais-tu encore loin de ce salut que Dieu a fait venir jusqu'à toi au travers de sa parole en t'annonçant les bienfaits de l'œuvre expiatoire du Christ? Ce matin encore, tu as entendu cette bonne nouvelle. Et ne vois-tu pas que Jésus est le chemin? Ou peut-être aurais-tu trouvé un meilleur chemin pour fuir la colère de Dieu, un meilleur exode, un chemin qui serait plus sûr, plus certain pour arriver à Canaan. Oh, suis Jésus. Suis Jésus, car quiconque suit le Christ est vraiment libre. Vraiment libre. Libre de la condamnation. Libre de la domination du péché. Libre de la culpabilité justifiée de nos consciences, qui nous rappelle jour après jour que nous avons une dette envers Dieu. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Sors donc et rejoins-le. Et alors tu seras vraiment libre. Et à vous qui avez déjà entrepris l'exode et qui marchez à la suite de Christ, oh, restons fermement attachés à lui comme à notre vie même, car il est notre vie. Que Dieu vous bénisse. Prenons encore un temps pour prier pour ceux qui le désirent.